Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Le jeudi 21 octobre, je recevais Noël Mamère qui tenait le soir même une conférence débat sur les droits du vivant organisée par la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Vous écoutez Radio B.
La chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Bonjour Noël Mamère et bienvenue.
Bonjour.
Noël Mamère, votre vie est riche d'expériences diverses et connues. Journaliste présentateur du journal de 13h, vous étiez une figure familière des Français. Puis vous êtes devenu un citoyen engagé, maire de Bègles pendant presque 30 ans. Je me souviens que vous avez célébré le premier mariage homosexuel 9 ans avant sa légalisation. Vous avez été député écologiste de la Gironde. Vous avez été aussi le candidat des écologistes aux élections présidentielles de 2002, obtenant le meilleur des scores des Verts à ce jour. Vous êtes depuis très longtemps un militant de la Ligue des droits de l'homme et vous publiez de nombreux ouvrages ayant trait à l'écologie. Alors je voulais vous poser cette question, Noël Mamère. Aujourd'hui, vous avez plus de carte de militant vert. Quelle est la nature de votre engagement ?
Mon engagement reste celui d'un écologiste que j'ai toujours été depuis que je suis arrivé à l'université à Bordeaux en 1969, où j'ai été très influencé, j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer, par deux hommes, deux grands penseurs de l'écologie que l'on découvre aujourd'hui et qui pourtant écrivent depuis 1935, qui étaient Jacques Ellul, dont j'ai été l'élève à Sciences Po à Bordeaux, et Bernard Charbonneau, deux hommes que l'on a appelés les personnalistes gascons et qui en 1935, alors qu'ils avaient 25 ans, ont écrit un texte très important qui s'intitulait « Manifeste pour Révolution pour un manifeste personnaliste » et qui posait déjà les bases de la critique écologique que ma génération et celle qui m'a suivi est en train de développer et qui est en train de prendre sa place dans la société. Donc aujourd'hui, je suis toujours journaliste dans ma tête, et vous car êtes c'est un... ma seule profession, oui. Mais je suis toujours un militant écologiste, même si je n'appartiens pas au parti Europe Écologie Les Verts que j'ai quitté en 2013, mais je reste à la disposition de mes amis écologistes quand ils me demandent de les aider.
Très bien. Alors, en 2015, vous avez publié un ouvrage dont le titre était un vrai programme, qui disait « Changeons le système, pas le climat ».
Alors, qu'est-ce... ce titre, oui. D'abord, il n'est pas le mien. Je l'ai coécrit
c'est
avec...
pas l'autre.
J'ai écrit ce livre avec Patrick Farbiaz, avec qui j'ai écrit plusieurs essais, qui ne concernaient pas d'ailleurs seulement l'écologie, mais aussi une analyse de la société. « Changeons le système, pas le climat », c'est le beau slogan qui a été inventé par l'association Alternatiba. Alternatiba qui joue un rôle très important aujourd'hui, notamment auprès de ceux qui pratiquent la désobéissance civile non violente, et qui fait même des stages de formation, non pas à la désobéissance civile non violente, mais à la meilleure connaissance de ce qu'est le dérèglement climatique et des réponses qu'on peut lui apporter. Et nous avions considéré, en accord avec Alternatiba, que ce titre correspondait bien à ce que nous essayions de défendre dans notre livre. En fait, quel est le problème aujourd'hui ? Ce n'est pas de changer le climat, c'est d'essayer de conserver le climat que nous avons pour qu'il n'augmente pas, pour que les températures n'augmentent pas de telle sorte que notre planète devienne invivable. Et donc si on veut maintenir le climat, eh bien, il faut changer le système, parce que le système dans lequel on est, il nous conduit dans le mur.
Oui, vous dites que nous vivons aujourd'hui dans l'ère du capitalisme de la démesure.
Oui, c'est le capitalisme de la démesure, mais c'est aussi celui de la surveillance. Vous voyez bien l'importance du tout numérique. Vous voyez bien que nos smartphones sont devenus en quelque sorte notre laisse. Après que nos libertés n'ont pas arrêté de se rétrécir depuis les attentats terroristes de 2015, en passant par la crise sanitaire, puisqu'on ne peut plus entrer quelque part sans montrer son passe sanitaire, ce qui est sans doute une nécessité pour protéger nos vies, mais qui est aussi une manière d'être dépendant d'outils numériques qui sont effectivement des éléments du capitalisme de surveillance auxquels on peut ajouter, par exemple, l'intelligence artificielle. Mais en effet, la démesure, c'est justement un des thèmes philosophiques qui a été étudié par Charbonneau et notamment par Jacques Ellul. En effet, nous sommes dans des sociétés qui se prennent un petit peu pour Prométhée, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire plus, toujours plus grand, et cette démesure, elle est en train de montrer nos limites, et elle est en train surtout de finalement d'apporter, de montrer à l'homme qui se croit qui croit pouvoir échapper à son destin et à sa condition, mais qu'en effet il doit garder les pieds sur terre, sinon il passera les pieds sous terre.
Oui, donc c'est une question de vie et de mort pour notre espèce.
Vie et de mort, oui, je pense que si on le dit comme ça, ça fait peur à tout le monde, donc il ne faut pas non plus utiliser des mots qui entraînent la peur, parce que la peur, ça peut vitrifier les gens, et la peur, ça peut être aussi un outil d'engagement, ça peut être le motif de l'engagement et de l'action, mais la réalité, c'est que, comme le dit très bien le GIEC, le Groupement International des Experts du Climat, nous sommes entrés dans la décennie critique, c'est-à-dire que si dans les 10 ans qui viennent, nous ne faisons rien de significatif, et de ce point de vue, la conférence de Glasgow qui va s'ouvrir dans quelques jours est d'une importance capitale. La mobilisation des jeunes, les marches pour le climat, les grèves du vendredi pour le climat sont autant de preuves qu'il y a une prise de conscience planétaire aujourd'hui de cette urgence, et que cette génération, celle de nos enfants et de nos petits-enfants, elle a très bien compris que c'était sa survie qui est en jeu aujourd'hui. Et qu'elle ne se laissera pas abuser par les petits pas, qu'elle ne se laissera pas abuser par les discours, mais qu'elle exige une forme de radicalité à laquelle on n'était pas habitué du tout jusqu'à maintenant.
Mais vous dites dans Les Terrestres, une bande dessinée que vous avez, à laquelle vous avez participé, on parle de vous, vous dites qu'on ne change pas la conscience des gens comme on change un moteur.
Alors, je voudrais revenir sur cette bande dessinée. Je l'ai coécrite avec une jeune dessinatrice libanaise très talentueuse qui s'appelle Raphaël Macaron. C'est une bande dessinée de reportage dans des écolieux. J'ai choisi ces écolieux pour essayer de faire découvrir ceux qui sont aujourd'hui en quelque sorte des défricheurs, qui nous montrent des pistes de ce que pourrait être un autre monde. Et pourquoi je l'ai appelé Les Terrestres, c'est une référence explicite à Bruno Latour, qui est un des philosophes aujourd'hui les plus appréciés des écologistes, et bien au-delà d'ailleurs, qui, dans son livre « Où atterrir ?», nous explique qu'aujourd'hui nous habitons la Terre comme des terriens, c'est-à-dire comme des hommes et des femmes, qui restons sous l'influence de Descartes, l'homme est maître et possesseur de la nature, et que nous épuisons cette terre pour satisfaire nos besoins, alors que nous devrions vivre comme des terrestres. Vivre comme des terrestres, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ce que Bruno Latour appelle notre entourage, c'est-à-dire le monde des humains, bien sûr, mais aussi le monde des non-humains. Ce que certains philosophes comme Baptiste Morisot appellent le monde des vivants. Et nous sommes en train d'ailleurs de redécouvrir ce que nous avions ignoré pendant des décennies et des siècles, des cultures que nous avons colonisées, et des cultures que nous avons méprisées. Je pense en particulier à la cosmologie des Amérindiens, qui n'ont jamais imaginé que l'homme était maître et possesseur de la nature, mais qui se sont toujours considérés comme une des composantes de la nature, du monde des vivants. Et eux, ils ont très bien compris que lorsque l'on porte atteinte à une partie de ce monde vivant, on met en cause notre propre avenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument lier la question du dérèglement climatique à la question de l'effondrement de la biodiversité. Parce que si nous continuons à ce rythme, eh bien l'espèce humaine, en effet, peut être inquiète quant à son avenir. Alors, et d'ailleurs, il ne faudrait pas dire sauvons la planète, parce que la planète, finalement, elle nous survivra, même si l'espèce humaine disparaît de la planète. Et donc, ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'idée qu'il faut sauver l'espèce humaine. Et si l'espèce humaine veut se sauver, il faut qu'elle engage un autre rapport à la nature. C'est un petit peu donc l'objet des Terrestres. Et ce qui est amusant, c'est que cette jeune femme de 30 ans, Elle n'en héritait pas de me dire « Mais Noël, c'est quand la fin du monde ?» Et je lui disais « C'est pas le problème de la fin du monde, c'est le problème de la fin d'un monde. » Et donc, elle a été assez ébranlée par tout ce qu'elle est, par la série de reportages. Et au fur et à mesure, l'émotion a cédé la place à la raison. Et ça donne une bande dessinée dans laquelle deux regards se croisent, celui d'une jeune femme de 30 ans et celui d'un vieil écolo comme moi.
D'ailleurs, j'ai noté que cette jeune dessinatrice se demandait si elle avait envie de faire des enfants dans ce monde menaçant, et vous lui avez opposé votre confiance dans le monde de demain.
Oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a des mouvements. Il y a un mouvement qui est parti des États-Unis qui s'appelle le mouvement des Ginks pour Green Inclination No Kids. C'est un mouvement de femmes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles considèrent que si elles font des enfants, elles vont encore alourdir le fardeau de la planète. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette position, parce que je pense que la surpopulation n'est pas le problème de la planète, contrairement à ce que disent les néoconservateurs américains depuis les années 70. Et je pense qu'au contraire, c'est une question de répartition des richesses, c'est une question d'autres pratiques agricoles, et aujourd'hui, on peut nourrir la planète, et puis la surpopulation, elle peut se freiner, ou en tout cas elle peut se modérer par l'éducation, notamment l'éducation des jeunes filles et l'éducation des femmes dans les pays dans lesquels il y a encore une très grande fertilité. Donc toutes les enquêtes le montrent, et il suffit de se référer par exemple à ce que disent des scientifiques aussi importants que Hervé Lebras, qui est démographe, ou Gaël Giraud. Il vous explique avec beaucoup d'arguments que cette idée selon laquelle nous serions la principale menace sur la planète serait la surpopulation est évidemment un leurre, puisqu'on sait que la principale menace, c'est le dérèglement climatique.
Et donc pour cela, il va falloir changer de système, et vous abordez différentes pistes. Vous dites par exemple, en reprenant Gandhi, une démocratie doit s'étendre et non s'élever.
Oui, une démocratie doit s'étendre. Il y a des exemples de ce qu'on aurait pu continuer, qui a été expérimenté et qui aurait pu être poursuivi. Je pense en particulier à la conférence des citoyens. La Convention citoyenne pour le climat. C'était une expérience très intéressante, inspirée d'ailleurs de ce qui existe au Danemark depuis 1989, qu'on appelle les conférences des citoyens.
Oui.
Cette Convention citoyenne, c'était le recrutement de citoyens tirés au sort, bénéficiant d'une formation pour pouvoir émettre des avis solides, des avis documentés, c'est-à-dire une forme d'expertise. On a vu la pertinence de ce qu'a produit cette convention citoyenne.
Oui.
Et malheureusement, le président de la République l'a transformé en un immense gâchis. Mais on s'aperçoit qu'en effet, la démocratie, elle est vivante non pas lorsqu'elle est pyramidale, du haut vers le bas, mais lorsqu'elle est horizontale et lorsqu'on fait participer beaucoup plus le citoyen à ce qui est sa communauté de destin, quand on lui demande de s'occuper de ce qu'il regarde. Et on doit bien reconnaître qu'aujourd'hui, même s'il y a des progrès et beaucoup d'expériences qui sont menées en termes de démocratie participative, en termes d'expériences démocratiques, je pense en particulier à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, comme on l'a montré dans notre BD Les Terrestres, mais il n'y a pas que ces endroits-là où on aurait des leçons à tirer de ces expériences démocratiques qui se pratiquent dans des petites communautés mais qui pourraient être étendues à l'ensemble de notre pays.
Oui, vous dites que vous croyez à la pollinisation des initiatives.
Oui, je crois à ce que disait Paul Lyotte, l'exemple fera un peu plus que la menace. Oui, les initiatives, il faut montrer ces initiatives qui souvent sont des petites initiatives mais qui peuvent inspirer des politiques beaucoup plus globales. Ça illustre d'ailleurs le slogan des écologistes, penser globalement et agir localement. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la somme de ces petites initiatives qui seraient appelées à polliniser, est-ce qu'elles peuvent faire société? Je n'ai pas la réponse.
Oui, alors, oui. Est-ce que vous croyez à une sorte de gouvernance mondiale avec des initiatives diverses qui se retrouvent?
La gouvernance mondiale, normalement, elle existe avec l'Organisation des Nations Unies, mais on voit que c'est devenu une coquille vide. Moi, je crois à la gouvernance mondiale, comme tous les écologistes qui disent nous n'avons qu'un seul monde, mais une gouvernance mondiale qui ne soit pas conduite et guidée par le marché, mais qui soit guidée par le droit et la justice.
Vous y croyez, Noël Mamère?
Mais il n'y a pas d'autre issue que la solidarité mondiale autour de la justice et autour du droit pour civiliser les humains et pour permettre à l'ensemble de l'humanité de pouvoir continuer à vivre dans des conditions décentes sur cette planète en surchauffe.
Eh bien, je vous remercie, Noël Mamed, maire, pour ces belles paroles de militant de la Ligue des droits de l'homme.
Merci beaucoup.
Et amis auditeurs, à bientôt et à la prochaine fois.